Merci. Merci pour cette présentation et merci à vous de m'écouter par cette belle après-midi de printemps. Donc oui, vous avez raison, Juliette, il s'agit bien de parler d'une passion en parlant du mépris, même si ça paraît peut-être un peu paradoxal. Mais il s'agit bien de ce qu'on pourrait appeler une émotion ou une attitude affective. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, c'est clair que la tradition a fait de Flaubert le grand contempteur de la bêtise bourgeoise, le pourfendeur de la nullité moderne. Et il suffit de consulter sa correspondance, hein, loin de rechigner à prendre position dans les affaires du temps. D'épistolier n'hésite pas à en rajouter des couches dans l'indignation, dans l'invective et l'offense. On imagine pour le plus grand plaisir de ses amis. Mais on a aussi coutume de distinguer l'homme de l'œuvre en suggérant que, bien sûr, l'ironie demeure dans l'œuvre, mais toute forme du fiel qui était déversé dans la correspondance aurait disparu des romans de Flaubert en vertu du sacro-saint principe de l'impersonnalité. Alors, il me semble qu'une fréquentation un petit peu prolongée de l'œuvre de Flaubert conduit à relativiser cette opposition entre une attitude esthétique qui serait forcément noble et désintéressée, et puis une posture éthique un peu plus sale et qui serait celle affichée dans la correspondance. Ma part, loin de distinguer aussi clairement entre ces deux attitudes, je défendrai l'idée que le principe de l'impersonnalité, cher à Flaubert, cette hauteur de vue hein, qui consiste à ne rien blâmer, à tout chanter, repose sans doute sur une ascèse du cœur, mais je soutiendrai que cette ascèse est foncièrement de l'ordre du mépris. Voilà. Donc si... S'il est vrai que le mépris voisine souvent avec l'indignation, qu'il s'exprime volontiers par l'outrage et à travers les figures de l'exagération, le mépris est au fond une émotion plutôt froide qui tend vers l'indifférence. C'est du moins la définition que j'en trouve chez Aristote dans la Rhétorique. Je cite, Le mépris est l'effet d'une opinion tendante à faire juger sans aucune valeur, ce qui en est l'objet, car les choses mauvaises, les choses bonnes, nous leur accordons une certaine importance, donc on les aime ou on les déteste, hein, mais celles qui ne sont rien ou sont tout à fait insignifiantes, nous ne leur supposons aucune valeur. Et c'est là qu'est le mépris. Or, ces choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, et qui sont ainsi neutralisées par le mépris, ce sont précisément les passions humaines, et en particulier les passions dérivées de l'orgueil, comme l'insolence, la vanité, la suffisance, la morgue ou encore l'arrogance, autant d'attitudes qui énervent beaucoup Flaubert. Et cette définition du mépris que je suis en train de construire là, je l'emprunte à une philosophe américaine, Macalester Bell. Qui est l'autrice d'une importante monographie sur la fonction morale du mépris, parue en 2013, mais qui, je crois, n'est pas encore traduite en français. Et Macalester Bell affirme que le mépris est la meilleure réponse possible face à ce que les Latins appelaient la superbia. En français, le terme est un peu vieilli, mais on dit encore. Étaler sa superbe, on dit encore être plein de superbe ou rabattre la superbe de quelqu'un pour désigner un sentiment de supériorité excessif que seul le mépris, d'après Macalester Bell, serait capable de sanctionner efficacement. Alors j'ajouterais à cette définition que cette neutralisation des passions chez Flaubert, elle va être essentiellement obtenue par le rire. Et je cite ici une lettre à Louis Scollet, qui date de 1854, c'est quelque chose le rire, c'est le dédain et la compréhension mêlée, et en somme, la plus haute manière de voir la vie. Donc pour celui qui prend au sérieux les déclarations d'intention de la correspondance, l'œuvre de Flaubert, elle fonctionne tout entière comme un crachat, hein, je cite ici la correspondance, comme un crachat adressé à la face de la médiocratie, comme il l'appelle. Et ces romans constituent une couche de mépris d'autant plus virulent qu'ils ne souffrent pas de réponse, à l'exception notable de la réponse judiciaire. On se souvient du procès de Madame Bovary pour outrage à la morale publique et religieuse et outrage aux bonnes mœurs. Sous la robe de Pinard, reprochant à l'auteur son indulgence coupable pour la poésie de l'adultère, c'est bien l'État tout entier qui accusait Flaubert de saper les bases de la société, pour reprendre la formule toute faite qu'on trouve dans le dictionnaire des idées reçues. Et il en va de même pour la dernière œuvre de Flaubert, l'Encyclopédie critique en farce. Elle est dès l'origine pensée comme une œuvre vindicative, fondée sur un mépris des valeurs bourgeoises, tout à fait digne d'un misanthrope. Et je rejoindrai ici les observations de Yvan Leclerc, hein, dans La spirale et le monument, son essai sur Bouvard et Pécuchet. Flaubert est parfaitement conscient du caractère offensif du projet de Bouvard et Pécuchet, et le fait qu'il ait attendu la fin du Second Empire pour en commencer la rédaction est tout à fait révélateur. Lorsqu'il hésite, hein, à se lancer pour la première fois dans l'histoire des deux bons hommes, on est en 1863 et il optera finalement pour L'éducation sentimentale qui sera publiée dans L'indifférence générale. Et c'est en 1863, donc il hésite, que Flaubert écrit au frère Goncourt qu'il craint, je cite, de se faire lapider par les populations ou déporté par le gouvernement, ou encore à Jules Duplan, toujours la même année, « Mais je me ferai chasser de France et de l'Europe si j'écris ce bouquin-là. » Et en effet, l'un des aspects les plus ravageurs du mépris est sa capacité à rompre en visière à tout le genre humain, et donc à couper toute forme de lien social. Le contempteur, par définition, c'est celui qui se tient à l'écart des autres, puisqu'il les méprise, et il est donc aussi celui qui prend le risque d'être à son tour tenu à l'écart. C'est d'ailleurs bien ce qui devait arriver aux personnages de Bouvard et de Pécuchet dans le plan scénario qui relate la fin de leurs aventures, hein. Les deux bons hommes était censé endurer l'épreuve rousseauiste de la lapidation à la place de leur créateur, à la place de Flaubert. Je cite, c'est dans les scénarios, « Les gamins du village, en dehors de la grille, jettent des pierres dans leur jardin. » Voilà comment ça devait se terminer. Et voilà une des premières et des plus spectaculaires manifestations de ce que j'appelle la réversibilité du mépris, qui est évoqué dans mon titre. Alors, je ne vais pas retracer la genèse du projet de Bouvard et Pécuchet. C'est une genèse compliquée, le projet est très ancien. Je renvoie encore une fois au travail d'Yvon Leclerc, hein, pour qui l'auteur de Bouvard et Pécuchet est déjà tout entier contenu dans L'enfant de 9 ans, qui écrit à ses amis la veille de Noël. Mais je tiens quand même à rappeler que depuis les années 50, époque où il écrit La Bovary, jusqu'aux années 70, pardon, jusqu'aux années 70, où il se lance enfin dans Bouvard et Pécuchet, la motivation est identique. Et elle est très loin d'être noble ou impersonnelle. En 1852, il confie à Louise Collet, je cite, « J'ai quelquefois des prurites atroces d'engueuler les humains et je le ferai à quelques jours dans 10 ans d'ici, dans quelques longs romans à cadre large. » Et 20 ans plus tard, l'écrivain confirmé semble en être resté au même stade, c'est-à-dire qu'il s'agit encore et toujours d'expectorer son fiel, ça c'est dans une lettre à Tourguenieff, hein, comme si les trois romans publiés entre deux n'avaient servi à rien et que l'œuvre magistrale restait encore à écrire. Et donc on trouve dans des lettres de 1872 moment où il démarre l'écriture de Bouvard et Pécuchet, des déclarations tout à fait claires. Hein. À Madame Desgenettes, je cite, je médite une chose où j'exhalerai ma colère. Oui, je me débarrasserai enfin de ce qui m'étouffe. Je vomirai sur mes contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. Dussé-je m'en casser la poitrine, ce sera large et violent. La libido scribendi, qui s'exprime ici par des images d'eczéma, de fiel, de nausée ou de purge, manifeste autant d'images qui invitent à inscrire le mépris dans une constellation d'émotions négatives qui vont donc de la simple irritation, le prurit, hein, au dégoût le plus viscéral, dussé-je m'en casser la poitrine, je vomirai sur mes contemporains, en passant par donc la colère, la rancune et la soif de revanche. Alors, concernant la dominante composte du mépris flaubertien, je renverrai aux travaux récents de Florence Vatan, qui est ici avec nous aujourd'hui, et aussi de Sylvie Trière. Toutes deux ont montré que l'omniprésence des images répugnantes sous la plume de Flaubert, du Flaubert romancier comme du Flaubert épistolier, participe d'un processus esthétique qui est proche de la transmutation baudelairienne, en vertu duquel la boue est censée se transformer en or. Et comme pièce à ce dossier, qui est un dossier désormais bien documenté, hein, donc comme pièce à ce dossier, on mentionnera encore cette lettre tout à fait explicite de Flaubert à Louis Bouilhet en 1855. Je cite, je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à la bouche, comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle, comme on dort de bouse de vache les pagodes indiennes. Et qui sait, cela durera peut-être. Il ne faut qu'un rayon de soleil, l'inspiration d'un moment, la chance d'un sujet. Donc, je partage évidemment l'avis de Florence Vatan et de Sylvie Trière. Hein. Flaubert a toujours revendiqué la nécessité d'une œuvre qui ne soit pas le déversoir pot de chambre des émotions de son auteur, mais qui soit plutôt leur transfiguration poétique. On retrouve d'ailleurs l'image de la purge thérapeutique hein, à propos de Bouvard et Pécuchet. C'est dans une lettre à George Sand de 1872. Je cite, j'espère cracher là-dedans le fiel qui m'étouffe, c'est-à-dire émettre quelques vérités. J'espère par ce moyen me purger et être ensuite plus olympien, qualité qui me manque absolument. Donc devenir olympien, accéder en somme à l'ataraxie des anciens, est un projet récurrent hein, qui tient quasiment du vœu pieux. Et Flaubert n'est pas dupe de sa propre rengaine, il me semble, hein, puisqu'il ira jusqu'à attribuer le même désir à Pécuchet dans son roman. Pécuchet, donc reconnaissant, c'est au chapitre 9, le chapitre religion, Pécuchet qui reconnaît, je cite, le néant des choses terrestres et qui se déclare bouddhiste face à l'abbé Geoffroy scandalisé. Ceci étant dit, pour ma part, j'insisterai moins dans ce qui suit sur le résultat de la transfiguration poétique. Après tout, la bouse de vache demeure intacte, même sous le rayon de soleil. Et j'insisterai plutôt sur la manière dont son ingrédient principal, la merde donc, parvient à être figé et durci par ce que je nomme le mépris, et dont je voudrais mesurer l'ampleur et la portée hein, de ce mépris en m'appuyant encore un peu sur la correspondance de Flaubert, avant d'en venir à l'examen de quelques cas pratiques dans Bouvard et Pécuchet. Alors, du côté de l'objectif qui est visé par ce déversement de bile, il est typique d'une attitude qu'on pourrait qualifier de prophylactique ou d'hygiénique, dans le sens de la devise que Flaubert emprunte à Montaigne. C'est dans une lettre à Louis Scollet de 1854 que Flaubert avoue sa dette à l'égard de celui qu'il appelle son père nourricier. Donc, je cite, il me semble que nous ne pouvons jamais être assez méprisés selon notre mérite. J'aime à voir l'humanité et tout ce qu'elle respecte ravaler, bafouer, honni, siffler. Donc Flaubert démarque ici une formule que l'on trouve à la fin du livre 1 des essais, dans le chapitre où Montaigne établit une distinction entre Héraclite et Démocrite, qui est très utile pour celui qui réfléchit à la question du mépris. Résumé rapide hein, de cet essai de Montaigne. Les deux philosophes, donc Héraclite et Démocrite, d'après Montaigne, ont perçu également la misère de la condition humaine, mais chacun réagit de manière différente. D'un côté, Héraclite pleure de compassion, et de l'autre côté, Démocrite, je cite Montaigne, trouvant vaine et ridicule l'humaine condition, offre un visage moqueur et riant. Et naturellement, Montaigne opte pour ce qu'il appelle l'humeur de Démocrite. Je cite encore, non parce qu'il est plus plaisant de rire que de pleurer, mais parce qu'elle est plus dédaigneuse et qu'elle nous condamne plus que l'autre, puisque les choses de quoi on se moque, on les estime sans prix. Alors, je précise encore que le processus décrit par Montaigne, c'est-à-dire la négation de la valeur accordée à un objet par le truchement du rire, le visage de Démocrite, le visage moqueur et riant, ce processus se trouve déjà dans la rhétorique d'Aristote, où Aristote mentionne justement parmi les procédés qui servent à faire juger quelque chose sans valeur, l'ironie. Je cite Aristote, car l'ironie est un procédé méprisant, okay, et l'ironie, évidemment, c'est cette arme suprême dont Flaubert a perfectionné le maniement, de la caricature. Parfois un peu colérique, jusqu'à la quasi-invisibilité du dédain. Et il faut insister ici sur l'intense plaisir qui est procuré par l'exercice du dénigrement. Plaisir qui constitue sans doute un aspect particulièrement offensant du mépris. Hein. Le mépris, en effet, obéit à une espèce de loi du talion, puisqu'il répond à l'insignifiance des objets qu'il considère. Bon, prétendue supériorité, ce qui revient au même, vu qu'ils sont insignifiants. Il répond donc à cette insignifiance, âge apparemment dépourvu de motif. Comme le dit encore Aristote, c'est toujours dans la rhétorique, le mépris est d'autant plus outrageant qu'il dénonce l'indignité de son objet dans le seul but d'y trouver une jouissance. Je cite, on se fâche contre ceux qui raillent, qui plaisantent, qui ridiculisent, car ils outragent. Tels sont les procédés dont le mobile n'est pas une rémunération, ni un profit pour leur auteur. Car dès lors, ce mobile ne peut être que l'intention d'outrager. Donc il y a une gratuité hein, dans le mépris, ou si vous préférez, le seul intérêt du mépris est le plaisir que l'on prend à mépriser, et on imagine sans peine qu'un partisan de l'art pour l'art se soit montré sensible à cette gratuité singulière hein, qui garantit au mépris une sorte d'immunité diplomatique, immunité contre toute forme de récupération utilitaire. Pour être tout à fait juste, cependant, il faut préciser que le rire est la seule rémunération du mépris. C'est un profit, hein, c'est un mobile suffisant du mépris. Mais donc, le rire ne relève pas d'une volonté réformatrice, hein, le castigat ridendo mores de la comédie classique. Avec Flaubert, on est très loin de ça. Hein. Le rire donc du mépris ne relève pas d'une volonté réformatrice et il ne sert pas non plus de défouloir à un simple désir de vengeance. Ça, ce serait des manières d'instrumentaliser le mépris, d'en faire une chose utile. Donc, n'en déplaise à Maxime Ducamp, hein, qui prétend que Bouvard et Pécuchet constituent un livre des vengeances, on pourrait tout aussi bien faire de Bouvard et Pécuchet une sorte de livre des consolations, hein, ou une sorte de livre des jouissances. C'est en tout cas ce qu'affirme Flaubert dans une lettre à George Sand, d'avril 1874, où le mépris ressemblerait plutôt, sous sa plume, à une sorte d'exercice spirituel. Je cite, « Et vous voulez que je ne remarque pas la sottise humaine, et que je me prive du plaisir de la peindre, mais le comique est la seule consolation de la vertu. Il y a d'ailleurs une manière de le prendre qui est haute. C'est ce que je vais tâcher de faire dans Mes deux bons hommes. À l'instar de Montaigne, Flaubert aime donc avoir, je cite, l'humanité et tout ce qu'elle respecte, ravalée, bafouée, honnie, sifflée. Et l'on trouve la trace de ce mépris jusque dans ses écrits de jeunesse. Flaubert n'a pas encore 20 ans qu'il refuse déjà de se laisser enrôler dans, je cite, cette vanité privée que l'on appelle bonne conscience, respect humain, estime de foi, de soi, pardon, estime de soi. Et il ajoute, me parler de la dignité de l'espèce humaine, c'est une dérision. J'aime Montaigne et Pascal pour cela. La seule chose qui distingue l'homme des animaux, c'est manger sans faim, boire sans soif. Flaubert dénonce ainsi, c'est toujours dans les pensées intimes, hein, il est encore tout jeune, l'imposture, hein, l'imposture qui consiste à se croire supérieur, tandis que l'orgueil nous dévore. Je cite, combien de gens qui s'habillent pour s'admirer, qui sourient pour se voir sourire, qui parlent en se mirant, qui sont vertueux pour pouvoir s'estimer. Et de manière plus générale encore, c'est bien le ridicule intrinsèque à la vie humaine qui doit être tourné en dérision, ce que Flaubert appelle également le grotesque triste, hein, et qu'il éprouve, dit-il, tous les matins face au miroir en se faisant la barbe. Hein, on connaît la lettre à Louise Collet. Donc le mépris dont il est question ici est radical en ce sens que le ridicule qu'il se propose de dénigrer n'admet ni degré ni circonstances atténuantes. Et je vous renvoie ici à l'article de Juliette Azoulay qui analyse la distinction entre ridicule relatif et ridicule intrinsèque, dont Madame Bovary, hein, c'est Ridiculus sum qui est paru en 2016. Et en parlant de mépris, moi je suis simplement en train d'examiner le sentiment qui préside à la fabrication de l'objet ridicule. Donc c'est à une négation complète de la dignité humaine en général et non à celle d'un individu en particulier que nous invite Flaubert à la suite de Démocrite et de Montaigne. Et c'est cette attitude de principe, ou on pourrait dire ce mépris a priori, hein, qui garantit au mépris flaubertien une totale impartialité. Il va s'agir en effet d'opérer un nivellement des valeurs le plus radical possible, au point, alors je cite ici une lettre de Louise Collet de 1852, donc un nivellement des valeurs radical au point de immoler les grands hommes à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et de démontrer que les majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours tort. Hein, c'est ce que dit Flaubert à propos du futur dictionnaire des idées reçues, qui devait constituer le deuxième volume de Bouvard et Pécuchet. Donc il va de soi qu'en procédant à une telle inversion, hein, en affichant ouvertement son mépris des grands hommes, des martyrs et des minorités, le romancier compte bien, in fine, se moquer aussi des imbéciles, ridiculiser les majorités et punir les bourreaux. Ça va de soi. Mais il n'empêche que la roue du mépris est en marche. Et bien malin celui qui saura à quel moment l'arrêter. Ce qui est d'ailleurs un début avoué de Flaubert, hein, je rappelle ici, parce qu'il est très éclairant, le double exergue qui devait introduire le dictionnaire des idées reçues. D'un côté, il y avait la sentence Vox populi, vox Dei, de la sagesse des nations, hein, qui instaure le discours de l'opinion comme seul discours faisant autorité. Et puis sur la même page, de l'autre côté, il y avait une maxime de Champfort affirmant que toute opinion ayant convenu au plus grand nombre est nécessairement une sottise. Donc la superposition des deux formules, celle de Champfort et celle de la sagesse des nations, la superposition des deux formules sur la même page transgresse évidemment le principe de non-contradiction et renvoie dos à dos la minorité méprisante, celle qu'incarne Champfort, et la majorité complaisante de Vox Populi, Vox Dei, hein, ce qui est une façon tout à fait radicale de jouer à l'arroseur arrosé. Donc qu'il s'agisse du dictionnaire des idées reçues dont Flaubert dit qu'il le rêve arrangé de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui ou non, ou qu'il s'agisse de Bouvard et Pécuchet, l'objectif est le même. Je cite ici une lettre de 1878. D'ailleurs, c'est mon but secret, ahurir tellement le lecteur qu'il en devienne fou. Donc, le mépris généralisé, tel que je viens de le définir rapidement, le mépris généralisé consiste à refuser à quiconque toute forme de supériorité intellectuelle ou morale, à tort ou à raison, vous l'aurez compris, peu importe. C'est pas du tout le but, hein. Le but, c'est l'exercice spirituel du mépris. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, Flaubert parvient alors à transformer une attitude qui est foncièrement élitiste en une attitude parfaitement égalitaire. À moins que ce ne soit l'inverse, ce qui reviendrait alors à prendre acte d'une dictature de l'opinion, hein, vox populi, vox dei. Donc je m'explique, par définition, le mépris est une émotion aristocratique, puisqu'il consiste à nier la valeur d'autrui par comparaison avec sa propre valeur et sa propre supériorité. On parle de mépris de classe, et les gens méprisants sont souvent qualifiés de snobs. Et donc, au départ, le mépris est conçu comme une arme discriminante, visant à distinguer ce qui possède et ce qui ne possède pas de valeur. Et il est donc censé posséder une utilité sociale, c'est du moins le cas dans les sociétés très hiérarchisées, celles qu'on appelle également les cultures de l'honneur ou de la honte, puisque le mépris donc rabaisse le caquet des grenouilles qui se croient plus grosses qu'un bœuf, humilie les bourgeois gentilshommes, bref, maintient une ségrégation sociale et encourage les marginaux à se mettre au pas. Au départ, c'est ça, et vous allez voir que chez Flaubert, le mépris va devenir une arme parfaitement démocratique et donc parfaitement égalitaire. Si je redémarre depuis ce mépris un peu de classe, okay, et que j'entre maintenant dans Bouvard et Pécuchet, c'est très clairement sous cet angle que les deux personnages sont considérés par les notables de Chavignol. Bouvard et Pécuchet sont considérés comme deux Parisiens, l'expression apparaît, hein, et c'est plutôt de l'ordre de la focalisation interne, c'est au début du chapitre 2. Et les notables donc ont pris l'habitude de remettre à leur place les deux Parisiens qui sont venus faire leur inspection en province. Ces deux Parisiens, ce sont deux célibataires dont la vie est d'emblée perçue comme anormale. Imaginez donc, hein, ils ont eu le toupet, en arrivant, de boucher avec des planches les trous dans la claire-voie qui entoure leur propriété, afin que l'on ne puisse pas les observer depuis la route. Je cite, la population fut contrariée. Dès lors, les notables de Chavignol ne rateront pas une occasion d'étaler leur supériorité ou de faire sentir aux deux bons hommes leur insuffisance, hein, ce qui est plus ou moins la même chose. Donc, trop bête ou trop vieux pour étudier les sciences, trop permissif pour se faire respecter du petit personnel, trop dépensier pour tenir correctement leur ménage, trop crédule pour ne pas se laisser rouler dans la farine, trop idéaliste ou trop artiste pour avoir le sens pratique, trop subversif pour n'être pas révolutionnaire, etc. La liste des reproches essuyés par Bouvard et Pécuchet dans le roman est assez longue. Bon, c'est par abus de langage que je parle des notables de Chavignol, hein, parce que les personnages secondaires du roman n'ont rien de remarquable. Et leur attitude est d'ailleurs à tous également dénigrante, peu importe leur statut social. Hein, donc, ils sont notables, façon de parler. Et de fait, s'il est à peu près impossible de se soustraire au regard nivelant de l'opinion, pour celui qui habite Chavignol, il est tout aussi difficile de distinguer clairement le médecin du notaire, le maire de la servante ou l'aristocrate du curé. Entre le sourire méprisant du docteur Vaucorbeil, ce poseur, hein, dit Bouvard, à moins que ce ne soit Pécuchet. Donc, entre le sourire méprisant de Vaucorbeil, le sourire dédaigneux de Marescot, l'homme de goût, hein, occupé à collectionner ses faïences, ou, je cite encore, l'air narquois de ce goujat de Fourreau, le maire de Chavignol, on s'y perd un peu. Bouvard et Pécuchet n'est pas le roman de l'exaltation maladive des sens et de l'imagination dans la démocratie mécontente, hein, comme le disait Armand de Pontmartin à propos de Madame Bovary. Non, c'est plutôt le roman de, je pastiche, l'exaltation collective de la vanité dans la démocratie triomphante et donc largement satisfaite d'elle-même. À partir de là, le roman de Flaubert va se fonder sur une partition du mépris aussi répétitif qu'efficace. Le plus souvent, il s'agit d'écraser l'adversaire à coups d'embrayeurs discursifs sans réplique. C'est ce qu'a montré Florence Pellegrini hein, en commentant l'usage des connecteurs d'ailleurs, n'importe et mais, trois connecteurs. Donc, elle a commenté l'usage de ces connecteurs dans l'argumentation menée par les personnages dont Bouvard et Pécuchet. Et elle dit, je la cite, « Ce qui est en jeu dans la confrontation des opinions, c'est bien l'ascendant qu'il s'agit de prendre sur l'interlocuteur, partant le statut social que l'on est à même d'assumer. » Ok, donc ça c'est le plus souvent. D'autres fois, il va s'agir simplement de dénigrer ou de blâmer, c'est-à-dire d'infliger à l'adversaire la gifle d'un jugement de valeur à la fois réducteur et sans appel, dans le but évidemment de lui faire honte. Et ces deux verbes de parole, hein, dénigrer et blâmer, reviennent plusieurs fois dans le roman de Flaubert, où il participe activement au maintien de l'ordre. Alors, un petit relevé pas tout à fait exhaustif. On a Madame Bordin qui, je cite, « blâme, vu l'inconvenance, le décolletage de la dame en perruque poudrée dont le portrait orne le mur du musée de Bouvard et Pécuchet ». Et puis, on pourra aller jusqu'au conte de Faberge qui répète à tout bout de champ à qui veut l'entendre « On ne devrait pas permettre, on ne devrait pas permettre » et qui blâme toute forme d'immoralité. Les cibles du blâme sont le plus souvent Bouvard et Pécuchet. Ils sont coupables, en vrac, d'avoir fait la charité à Gorgu. Je cite « De telles complaisances favorisaient le désordre ». Ils sont coupables d'avoir mal agencé leur jardin. Je cite « Ce coin, franchement, n'est pas propre ». Coupable de vouloir apprendre la chimie, elle exerce sur la médecine une action déplorable, ou encore de donner des romans à lire aux domestiques, je cite, « on doit surveiller les mœurs de ces gens-là ». Et je note en passant que l'étymologie de blâmer est bien blasphémée. On le voit, la rhétorique du mépris ne se prête guère à la discussion. Et les débats d'idées ne peuvent que tourner court. Comme le dit encore Florence Pellegrini, dans Bouvard et Pécuchet, l'enjeu n'est pas le savoir, mais bien l'utilisation du savoir à des fins oppressives. Enfin, et c'est peut-être l'expression du mépris la plus radicale, les personnages peuvent aussi se contenter de ricaner ou de hausser les épaules. Il y a une gestuelle du mépris que l'on peut repérer dans Bouvard et Pécuchet. C'est le cas du comte de Faverge, à propos de la petite Mélie, je cite, il haussa les épaules et tout en s'éloignant proféra quelques plaintes sur l'immoralité des campagnes. Vaucorbeil, venu soigner Bouvard à cause des coliques provoquées par sa bière artisanale. Il voulut en savoir la composition et la blâma en termes scientifiques avec des haussements d'épaules. Même Germaine, la servante, n'hésite pas à hausser les épaules devant ses patrons qui se piquent d'économie domestique. Et la fin du roman verra la petite Victorine, l'orpheline, hein, imiter la servante du curé et, je cite, « ricaner avec dédain au nom seul de protestants ». Donc, pour pasticher Descartes, et afin de souligner le caractère insatiable de la vanité, je dirais qu'à défaut du bon sens, c'est le sentiment de supériorité qui est la chose au monde la mieux partagée. Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui en sont les plus faciles à contenter en toute autre chose ont coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Or, s'il est vrai, comme le dit Montaigne, que nous ne pouvons jamais être assez méprisés selon notre mérite, c'est-à-dire s'il est vrai que les hommes ne valent la peine ni qu'on les aime ni qu'on les haïsse, alors nul n'est à l'abri d'un revers, ce qui garantit au mépris son impartialité. J'ai parlé tout à l'heure de roue du mépris. On pourrait également parler d'un cercle vicieux. En effet, dans la mesure où le contempteur, occupé à dénigrer les défauts d'autrui, est lui-même en train de manifester sa propre supériorité, l'effet boomerang est inévitable. et le méprisant s'expose bientôt à être méprisé, tant il est vrai qu'on est toujours l'imbécile de quelqu'un. J'en veux pour preuve ce très bref exemple d'arroseur arrosé au chapitre 2 de Bouvard et Pécuchet. Donc, vous avez un des deux Parisiens, c'est Bouvard, qui tente d'apprendre à ses paysans le maniement de la grande agraire de Mathieu de Dombasle, qui semble être une charrue un peu moderne. Je cite « Le charretier la dénigra, apprends à t'en servir, eh bien montrez-moi. » Il essayait de montrer, se trompait, et les paysans ricanaient. Le notaire Maresco, cet homme de goût, hein, aura beau dire que Molière est un peu surfait et qu'il ne passerait plus aujourd'hui, c'est pourtant bien ainsi qu'on fabrique une farce efficace. De fait, si la comédie a la capacité de bafouer les choses les plus saintes, la famille, la propriété, le mariage, cette fois c'est le comte de Faverge qui parle et qui parle du théâtre, hein. Donc si la comédie a la capacité de bafouer les choses les plus saintes, c'est bien parce qu'elle repose sur une réversibilité constante des positions de pouvoir. Si tel n'était pas le cas, les pièces tomberaient en effet et Maresco aurait raison de dire que Molière ne passerait plus. Dans les mains du disciple de Montaigne, le mépris devient alors une sorte d'engin de destruction massive et malgré tout toujours joyeux. On n'oublie pas que Flaubert est aussi un disciple de Rabelais, dont il admire la capacité, je cite, à écrire dans l'intention de nuire au genre humain et de lui rire à la face. Quelle immense position que celle d'un homme ainsi placé devant le monde. Évidemment, si le mépris est constamment réversible, alors son utilité sociale devient problématique. Théoriquement, le cycle opposant le mépris et ce qu'on pourrait appeler le contre-mépris, hein, théoriquement, ce cycle pourrait se poursuivre à l'infini, sans que jamais les positions ne changent. Cercle vicieux, donc, parce qu'on n'en sortirait pas. Le mépris pourrait cependant aussi bien former un cercle vertueux. En rendant la monnaie de sa pièce à l'individu ou à la collectivité méprisante, le mépris restaure une forme d'équilibre, puisque la superbe des uns et des autres est ainsi ramenée à ses justes proportions. Entrer dans le cercle vicieux ou vertueux d'une attitude affective qui est capable de détruire l'adversaire et de s'auto-détruire dans la foulée, c'est la parfaite attitude morale pour un écrivain comme Flaubert, soucieux de demeurer invisible ou impersonnel, tout en sapant les bases, hein, comme dit le dictionnaire des idées reçues. Donc, tout en attaquant la propriété, la famille, la religion, les autorités, ainsi que, bien entendu, la science, hein, qui, pour le coup, est également visée dans Bouvard et Pécuchet. Alors, un épisode de Bouvard et Pécuchet montrera la manière dont fonctionne le cycle du mépris et permettra de comprendre comment le sentiment de sa propre supériorité et la perception de l'infériorité, qu'il s'agisse de l'infériorité d'autrui ou de la sienne propre, d'ailleurs, se nourrissent et se renforcent mutuellement. Un exemple. Le feuilleté du mépris est très bien visible au début du chapitre 3, lorsque la rumeur publique, alimentée par Germaine, assure que les deux Parisiens s'amusent avec un véritable mort et qu'une délégation du village, conduite par le maire, vient assister au spectacle. Donc on a d'abord Fourreau, le maire, qui est humilié par la vision, non pas donc d'un véritable mort, mais d'un bonhomme en carton sur lequel travaillent les deux amis. Je cite, il, donc Fourreau, hein, souriait d'une façon narquoise, jaloux de ce qu'ils avaient un divertissement au-dessus de sa compétence. Première forme de mépris, c'est l'attitude du butor ou du renard qui cherche à compenser son infériorité en accusant les raisins d'être verts. C'est exactement le bilan que dresseront Bouvard et Pécuchet à l'issue de l'inauguration officielle de leur jardin. Hein. Je cite, « Sans doute, on pouvait reprendre dans le dîner deux ou trois petites choses par-ci, par-là, mais pour le jardin, tant de dénigrement provenait de la plus basse jalousie. » Donc, on le voit, il n'est pas besoin de postuler une supériorité du narrateur hein, dans l'analyse de ce mélange entre mépris et ressentiment. Un tel mécanisme est parfaitement accessible au personnage du roman. Mais j'en reviens à ma scène du mannequin anatomique, où le maire se souvient qu'il est censé incarner l'autorité suprême à Chavignol. Deuxième étape, je cite, il demanda s'ils avaient le droit, n'étant pas médecin, de détenir un objet pareil. Il allait du reste en écrire au préfet. Deuxième forme de mépris, le rappel à l'ordre autoritaire qui permet de maintenir ou de rétablir la hiérarchie sociale qui a été un instant menacée. Bon, il faut dire que Bouvard et Pécuchet en ont rajouté des couches dans l'offense, hein, au moment où arrive Fourreau. Ils ont feint d'être dérangés par l'intrusion en affirmant n'avoir besoin de personne, alors qu'en fait, on les sent tout contents d'avoir du public. C'est là une troisième forme du mépris, la réponse des artistes, hein, ou des comédiens auxquels Bouvard et Pécuchet s'identifient volontiers. Je rappelle que pour l'occasion, ils ont revêtu des blouses comme font les carabins dans les amphithéâtres. Quant à la réaction de Bouvard et Pécuchet, au moment donc où Fourreau menace d'interdire leurs expériences, quant à la réaction de Bouvard et Pécuchet, elle fonctionne de manière exactement symétrique à celle de Fourreau. Donc, à peine on leur interdit de poursuivre leurs travaux de dissection, qu'ils s'exclament, je cite, quel pays on n'était pas plus inepte, plus sauvage et rétrograde? La comparaison qu'ils firent d'eux-mêmes avec les autres les consola. Ils ambitionnaient de souffrir pour la science. Une quatrième forme de mépris, donc, apparaît ici, qui emprunte à la rhétorique du sarcasme et de l'hyperbole et exprime la grandeur du point de vue scientifique au prix de l'ignorance des consciences. L'empilement des positions de supériorité ne s'arrête cependant pas là, et le cycle du mépris se complique encore d'un tour de vis supplémentaire, rendu visible par le style indirect libre, mélangé aux commentaires narratifs. Je relis ma citation, hein. Quel pays on n'était pas plus inepte, plus sauvage et rétrograde? La comparaison qu'ils firent d'eux-mêmes avec les autres les consola. Ils ambitionnaient de souffrir pour la science. Donc, du côté du style indirect libre, le sarcasme, quel pays on n'était pas plus inepte, est aussi ampoulé que la position soi-disant éclairée de Bouvard et Pécuchet, souffrir pour la science. La confrontation des deux formules tourne en effet à la destruction mutuelle, car le fait de ne pas pouvoir jouer à Docteur Maboul avec un bonhomme en carton, acheté par correspondance, hein, ne signifie évidemment pas que l'on est en train de souffrir pour la science. Ce qui relativise dans la foulée l'obscurantisme attribué aux habitants de Chavignol. Réciproquement, et à moins d'être un amateur de récits fantastiques, le fait que Fourreau ait cru bon d'empêcher nos deux retraités de jouer à la poupée relève en effet de l'ineptie rétrograde, ce qui ne peut que corroborer l'enthousiasme des deux originaux et leur conviction d'être héroïques. Match nul, donc. Connaissant la fin prévue par Flaubert pour le roman, on pourrait s'en tenir à dénigrer l'obscurantisme des Chavignolais. Entre leur procès pour avoir injurié un garde-chasse, les rumeurs faisant de Bouvard le père de l'enfant de Mélie, le mandat d'amener délivré par les gendarmes au prétexte qu'ils auraient attenté à la religion et à l'ordre, ou encore la lettre de Vaucorbeil expliquant qu'ils sont deux imbéciles inoffensifs, Bouvard et Pécuchet auront subi toutes les avanies. On aurait donc très envie de prendre leur défense. On aurait tort cependant d'interrompre le mouvement de la réversibilité. En effet, la vanité de Bouvard et Pécuchet rend leur mépris tout aussi indéfendable et ôte toute valeur à la position de surplomb qu'ils revendiquent. C'est bien ce que montre le commentaire d'auteur. Je reviens ici à mon exemple du mannequin, hein. C'est bien ce que montre le commentaire d'auteur qui désigne très précisément le défaut du sentiment éprouvé par Bouvard et Pécuchet. Je cite, La comparaison qu'ils firent d'eux-mêmes avec les autres les consola. La rengaine du génie incompris, capable de transformer l'infériorité en arrogance, hein, est une sorte de point culminant de la dignité bafouée. Elle constitue un véritable leitmotiv des romans de Flaubert. Je n'ai pas vérifié dans Salammbô, hein, mais Philippe Chardin a montré la présence de ce snobisme, il appelle ça un snobisme psychosocial prétentieux et malheureux, dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale. Et on se souviendra simplement ici des déambulations de Frédéric Moreau dans Paris, hein. Il se sentait tout écœuré par la bassesse des figures, la niaiserie des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur. Cependant, la conscience de mieux valoir que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder. Alors évidemment, le snobisme de Bouvard et Pécuchet est beaucoup plus épanoui hein, que dans sa version romantique chez Frédéric Moreau, mais il n'en demeure pas moins extrêmement prétentieux. Et Flaubert s'en sert volontiers comme d'un ressort narratif permettant d'assurer la transition entre une humiliation subie par Bouvard et Pécuchet et un triomphe. Par exemple, au chapitre 5, lorsque nos deux artistes rêvent d'ouvrir un théâtre de société et donnent des cours à Gorju, un simple retour à la ligne suffira à dessiner le mouvement de balancier. Je cite, « Le bruit de leurs travaux s'était répandu, Vaucorbeil leur en parla de façon narquoise, généralement on les méprisait, et puis retour à la ligne, ils s'en estimaient davantage, ils se sacrèrent artistes, Pécuchet porta des moustaches, et Bouvard ne trouva rien de mieux avec sa mine ronde et sa calvitie que de se faire une tête à la Béranger. » Donc le feuilleté du mépris est le même ici que dans la scène du mannequin. Le mépris des Chavignolais face au théâtre hein, procède d'abord d'un sentiment d'incompréhension. Il engendre tout naturellement un mouvement de contre-mépris chez Bouvard et Pécuchet. Ils s'en estimèrent davantage. Mais cette supériorité est aussitôt nuancée par l'ironie, comme le suggère l'expression « tête à la Béranger hein, » qui est mise entre guillemets dans le texte, afin de souligner la bêtise de celui qui confond la grandeur avec les signes de la grandeur. On interprétera de la même manière le passage souvent commenté de la fin du chapitre 8, où les deux compères développent la faculté pitoyable de voir la bêtise hein, et de ne plus la tolérer. Je cite « En songeant à ce qu'on disait dans leur village, et qu'il y avait jusqu'aux antipodes d'autres coulons, d'autres marescots, d'autres fourreaux. Ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Ils ne sortaient plus, ne recevaient personne. » Donc, d'une part, cet accès de misanthropie n'est pas le premier du roman, ce qui en relativise un tout petit peu la grandeur. Hein. Bouvard et Pécuchet ont déjà eu l'occasion d'être dégoûtés du monde au point de vouloir brûler tous les ponts. C'était le cas après le fiasco de l'inauguration de leur jardin. Je cite, dégoûtés du monde, ils résolurent de ne plus voir personne, de vivre exclusivement chez eux, pour eux seuls. Même chanson après l'élection de Napoléon III, à la fin du chapitre 6, tout me dégoûte, vendons plutôt notre baraque et allons au tonnerre de Dieu chez les sauvages. Et puis d'autre part, on s'en doutait un peu, la hauteur de vue affichée par Bouvard et Pécuchet est encore très loin de l'ataraxie. Comme le précise le narrateur, à moins qu'il ne s'agisse d'un style indirect libre de Bouvard et Pécuchet, hein. Je cite, « L'évidence de leur supériorité blessait. Si donc être la cible du mépris était le signe infaillible d'une élévation d'esprit, alors l'abbé Geoffroy, qui est accablé par les sarcasmes de Bouvard et Pécuchet, devrait être considéré comme une sommité intellectuelle de Chavignol. » Donc, on l'aura compris, hein, le mépris est un excellent tremplin pour la vanité, à moins que ce ne soit l'inverse. Et ceci est valable aussi bien dans le jeu de ping-pong opposant mépris contre mépris, donc au niveau collectif, hein, au niveau de la réunion sociale, que même ramené à l'échelle d'un individu, d'un seul individu. Et alors, je n'ai pas le temps parce qu'on arrive quand même au bout de l'heure, hein, mais on aurait pu développer ce cycle, ce recyclage permanent de la vanité et du mépris chez un personnage comme le docteur Vaucorbeil, le médecin. C'est particulièrement flagrant chez lui, et c'est évidemment grâce à ça que Bouvard et Pécuchet parviennent à le rendre foudrage. Donc, je suis obligée de m'arrêter là, je n'ai pas encore du tout fini ce que j'avais l'intention de dire, mais...
Mais vous avez encore un peu de temps, hein, si vous voulez.
Mais il me semble que ça fait déjà 1 heure que je parle, donc voilà.
Ça fait 50 minutes.
Ben oui, ben, c'est beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais simplement conclure. Hein. Je vais simplement conclure en revenant à la devise de Montaigne. Il me semble que nous ne pouvons jamais être assez méprisés selon notre mérite. En disant que cette exigence, elle correspond chez Flaubert. Enfin, elle correspond bien au projet de Flaubert. Elle correspond à son projet à la fois sur le plan moral. Le mépris pouvant donc être conçu comme une sorte d'exercice d'hygiène mentale de manière à dégonfler les égos surdimensionnés. Si j'avais pu montrer sur le docteur Vaucorbeil, on aurait vu à quel point l'ego de Vaucorbeil mérite ce dégonflement. Okay. Il sert également, c'est toujours sur le plan d'une hygiène morale, il sert également à mettre en doute les certitudes, ce qui est une large part du projet de Bouvard et Pécuchet, l'encyclopédie critique en farce. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le mépris chez Flaubert est radicalisé à tel point qu'il finit par ne plus être une émotion. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il finit par ne plus être une émotion qui dépend systématiquement d'une comparaison avec autrui. C'est-à-dire qu'à force d'opposer mépris et contre-mépris, il n'y a plus de comparaison possible, en fait. C'est ce que j'appelais l'égalité totale ou la valeur démocratique du mépris. Hein. Il ne peut plus y avoir de hiérarchie, de supériorité ou d'infériorité, puisque tout le monde est méprisé et méprisable à égalité. Et ça, il me semble que ça correspond tout à fait à un projet esthétique chez Flaubert, cette égalité des valeurs. Hein. Si on revient dans le scénario final de Bouvard et Pécuchet, hein, juste avant de finir, comme il avait prévu, par la vue des deux bons hommes en train de copier, penchés sur leur pupitre, hein, Flaubert indiquait, dans le scénario du dernier chapitre, je cite, « égalité de tout, du bien et du mal, du beau et du laid, de l'insignifiant et du caractéristique. » Alors, si c'était là la conclusion à laquelle Bouvard et Pécuchet étaient eux-mêmes censés parvenir, alors il faut reconnaître qu'à un moment, les deux bons hommes seraient bel et bien parvenus à l'ataraxie, à ce mépris tellement absolu qu'ils confinent à l'indifférence. Là où on s'arrête, ils sont encore très englués de vanité, et donc eux-mêmes aux prises avec le cycle de lavage du mépris. Voilà, je vous remercie.